Merci beaucoup. C'est un plaisir une fois de plus d'être parmi vous. N'est-ce pas qu'il a fait beau là, dernièrement? Ça fait plaisir, hein? Le soleil, on est bien ensemble et c'est super de voir la beauté dans la création. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a 17 ans? Quelqu'un a 17 ans? Ou quelqu'un a eu 17 ans il n'y a pas longtemps? Ah, oui! Je pourrais dire ça moi aussi, mais c'est pas tellement crédible. Alors, qu'est-ce qui se passe habituellement dans la vie d'un jeune de 17 ans ici en France? C'est le bac. Ah oui, un moment important, n'est-ce pas? Quand vous avez eu 17 ans, vous avez passé le bac, en tout cas certaines épreuves du bac. Quoi d'autre? Est-ce que c'est à peu près vers 17 ans qu'on peut passer le permis, peut-être? Ah oui, hein? Donc des moments importants à 17 ans. On pense à l'avenir, on pense au choix de carrière, il y a plein d'options qui s'ouvrent devant nous. Oui, voilà. Eh bien, notre texte de ce matin nous a parlé d'un jeune de 17 ans. C'est un texte qu'on a trouvé dans le livre de la Genèse, et le livre de la Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Mais évidemment, à l'origine, la Genèse, c'était pas un livre relié comme ça. C'était des rouleaux, et le chapitre 37 qu'on a lu, c'est le 10e des 10 rouleaux. Il y a 10 rouleaux. Je sais pas si vous savez, mais le chapitre 37 jusqu'au chapitre 50, c'est le 10e rouleau, et ça compte pour 25% de tout ce qui est écrit dans la Genèse. Donc, vous voyez que c'est une partie de la Genèse qui est très, très, très importante et qui raconte surtout l'histoire d'un homme, Joseph, qui a 17 ans. On a lu le passage, mais si on veut bien comprendre ce qui se passe dans notre texte ce matin, il faut rembobiner un peu. Il faut se poser la question, mais qui est ce Jacob? Alors, bien sûr, vous avez sans doute tous lu le livre de la Genèse. Qui n'a pas encore lu le livre de la Genèse? Tout le monde a lu? Pas encore? Donc voilà, ça sera important d'expliquer qui est ce Jacob-là. Mais je vous encourage à lire ce livre-là, c'est magnifique. Tout ce qui va être développé dans le reste de la Bible, on le trouve en germe dans la Genèse. C'est un livre magnifique. Alors, qui est ce Jacob? On en parle au verset 1. Jacob, c'est le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham, l'ancêtre du peuple d'Israël. Abraham, Isaac et Jacob, eux, ils ont été choisis par Dieu pour incarner son projet sur la terre. Dieu a fait alliance avec eux. Et Dieu veut se faire connaître au monde par leur entremise. Donc on voit le rôle important d'Abraham, Isaac et Jacob dans le livre de la Genèse, mais pour tout le reste de la révélation. Mais comme on l'a découvert en lisant le chapitre 37, mais si vous lisez tout le 10e rouleau, c'est-à-dire chapitre 37 jusqu'à 50 du livre de la Genèse, vous allez découvrir assez vite que la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, elle est loin, 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 et est-ce que je peux rajouter un autre loin? Loin d'être parfaite. Ce n'est pas une famille parfaite, c'est la première chose qu'on découvre. Et on commence par Abraham. Abraham, c'est un grand homme de foi, un homme de Dieu. On dit que c'est le père de tous les croyants. Mais Abraham n'a pas hésité à mentir au roi d'Égypte et à dire que sa femme, c'était sa sœur. Pourquoi? Parce qu'il voulait sauver sa peau. Il avait peur d'être tué. Alors, est-ce qu'Isaac est meilleur qu'Abraham? Son fils Isaac va avoir deux enfants, des jumeaux, Ésaü et Jacob. Isaac, lui, il va favoriser Ésaü, un chasseur, et sa femme Rebecca va favoriser Jacob, un homme plus casanier qui aime bien faire la cuisine. Des jumeaux. Mais résultat de ce favoritisme, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, Rebecca va aider Jacob à voler à son frère la bénédiction de son père, le droit d'aînesse. Alors imaginez la réaction d'Ésaü. Il va être furieux, il va essayer de tuer Jacob. Et Jacob va fuir à Haran, le pays d'Abraham. Il va aller chez son oncle Laban, et il va travailler pour son oncle Laban, mais son oncle va le tromper en lui donnant Léa au lieu de Rachel comme femme. Intéressant, non? Jacob a volé le droit d'aînesse, il a trompé, et là il se fait tromper par son oncle. Vous voyez ce qui se passe dans cette famille? Il lui donne la femme qu'il ne cherchait pas à avoir. Et donc il va devoir travailler 7 années de plus pour pouvoir épouser finalement la femme qu'il aime, Rachel. Et puis Jacob, à son tour, il va avoir des enfants. Il va avoir 12 enfants. Mais 12 enfants de 4 femmes différentes. 4 femmes différentes. Imaginez cette famille. Et lui aussi va avoir des favoris. Comme s'il n'avait pas appris de l'histoire de sa propre famille. Il va avoir des favoris. Rachel, sa 2e femme, va être sa femme favorite. Joseph, son 11e fils, va être son fils favori. Problème dans la famille, non? Un jour, sa fille Dina, il a une fille, sa fille Dina va aller se promener à Sichem. Et là, elle va se faire violer par les habitants de Sichem. Alors, qu'est-ce que les 10 plus grands fils vont faire? Ben, ils vont venger leur sœur en massacrant les hommes de Sichem. Quelle famille! Et finalement, pour mettre la cerise sur le gâteau, ajoutons que l'aîné des fils de Jacob, Ruben, eh bien lui, il va coucher avec l'une des concubines de son père. Quelle famille! C'est dans ce triste contexte que commence l'histoire de Joseph. Waouh! Vous pensez à votre propre famille. Et peut-être que vous vous dites, vous, par moment, chez moi, c'est pas très glorieux. Mais imaginez l'arrière-plan de Joseph ici. Imaginez. Et ça nous amène à nous poser une question. Est-ce que Dieu peut agir quand même dans une situation tordue comme celle-là? Dieu peut-il agir? Bien sûr. Et on va le voir ce matin, cet après-midi, dans le texte qu'on a lu. Alors, petite parenthèse. J'aimerais dire que depuis la chute d'Adam et Ève de Genèse chapitre 3, toutes les familles sur la terre sont dysfonctionnelles à un degré ou à un autre. Il n'y a pas de famille parfaite sur la terre. Mais cela n'empêchera jamais, jamais Dieu d'accomplir son plan. Et si aujourd'hui vous vivez dans un contexte familial qui est difficile à porter, pensez à la situation de Joseph et prenez courage. Prenez courage. Dieu peut agir quand même. Pour Joseph, au début du chapitre 37, on pourrait dire que tout baigne. Il est jeune, il a 17 ans, il a toutes ses dents. Et son père le préfère à ses autres frères. Et son père va lui donner des privilèges. Au moins 2 ici, on en verra 3. Au verset 2, il reçoit d'abord la responsabilité de superviser le travail des 10 autres. Ça, c'est bizarre, parce que les 10 autres sont plus âgés que lui. On demande à un frère plus jeune de superviser ses grands frères. C'est assez étrange, non? Il doit rapporter ce qu'ils font à son père. Donc, privilège. Il est comme un superviseur. Et verset 3, il se voit offrir une tunique de plusieurs couleurs. Alors on peut se poser la question, est-ce que les autres membres de la famille ont remarqué le parti pris de Jacob pour Joseph? Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Bien sûr que oui. Lisez le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Mes amis, attention, les partis pris, le favoritisme, ça ne produit jamais rien de bon. Ils le prirent en haine. J'aimerais dire un mot ou deux au sujet de cette tunique, de cet habit que Jacob a donné à Joseph. Le mot hébreu qui traduit multicolore, donc quand on parle de tunique multicolore, ça pourrait être aussi traduit par manche longue. Le mot hébreu pourrait être traduit par manche longue. Peut-être que cette tunique avait effectivement plusieurs couleurs, ce qui était assez exceptionnel pour l'époque, mais le fait que ce vêtement ait des manches longues, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça signifiait qu'on ne pouvait pas porter cette tunique pour aller travailler. Intéressant, non? Les tuniques qu'on portait pour travailler étaient des tuniques sans manches. Jacob donne à son fils Joseph une tunique avec des manches, qui veut dire, toi, t'as pas besoin de travailler, tu vas être le superviseur. Laisse tes frères travailler. D'après le texte de Samuel, où le même mot hébreu se retrouve, il est question d'un vêtement royal. Intéressant, non ? Jacob aurait donné à Joseph un vêtement royal qui le distinguait de ses frères et qui le désignait comme chef héritier. Qui devait être normalement l'héritier ? Le plus âgé, Ruben. Et là, c'est comme si Jacob disait, ben, écoute, ah, merci, t'as senti dans la voix qu'il y avait. Jacob donne donc ce vêtement, un peu comme pour dire, eh bien, mon fils, c'est toi qui vas être l'héritier de la famille. Alors, vous comprenez un peu mieux la colère des 10 autres frères envers Joseph et envers son père. Le père ne cachait pas son désir de voir son préféré devenir l'héritier de la famille. Imaginez ce contexte. Et tout au long du chapitre 37, la haine des frères va augmenter comme en crescendo. Remarquez bien. D'abord, le fait que Joseph rapporte à Jacob le mal que ses frères ont fait, déjà ça les indispose à l'égard de Joseph. Hein, si dans votre famille, par exemple, le petit dernier va rapporter tout ce que vous faites à papa et maman, c'est pas quelque chose qui va vous rendre populaire, on va dire, dans la famille. Et c'est ce qui se passe ici. Ça, c'est la première étape. Mais lorsque Jacob donne à Joseph cette belle tunique, alors les frères comprennent à quel point il est traité différemment. C'est comme si à Noël, on donnait une grosse voiture à un des fils et le reste des enfants, on leur donne une trottinette. C'est pas facile. Et à ce moment-là, c'est écrit qu'ils sont même plus capables de lui parler gentiment. Voyez, le crescendo. Pas bien disposé, et là, on peut plus lui parler même. Mais la goutte qui va faire déborder le vase, c'est ces histoires de rêves. Joseph a des songes. Ses frères comprennent très bien le sens des rêves de Joseph et ils se mettent à le haïr encore davantage. Voyez, est-ce que tu vas régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ? Ils ont compris ce qui se passait là. Et quand Joseph va raconter à ses frères et à son père le deuxième rêve, remarquez là cette réaction qu'ils ont. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Ils furent jaloux, d'une jalousie comme celle de Caïn qui l'a amené à tuer son frère Abel. Attention à la jalousie. Maintenant, ses frères sont jaloux. Et à partir du verset 12, Jacob, sans le savoir, va donner l'occasion aux 10 frères d'exprimer toute leur haine. C'est déjà terrible d'avoir de la haine dans son cœur. Mais quand elle s'exprime, là c'est terrible, là c'est grave. Regardez ce qui va se passer. Jacob va demander à Joseph d'aller vérifier si tout va bien avec ses frères qui sont partis à Sichem. Bizarre que les frères soient partis à Sichem. C'est à Sichem que les frères ont massacré des hommes à cause du viol de leur sœur. Et là, Jacob les laisse partir à Sichem. Moi, j'ai trouvé assez incroyable de penser que jusqu'ici, Jacob ne semble pas du tout allumé. Il se rend pas compte de l'animosité qu'il y a entre Joseph et ses 10 frères. C'est comme s'il vivait dans le déni. Parce que l'envoyer auprès de ses frères, c'était très risqué. C'était comme le jeter dans la gueule du loup. Et son père lui demande d'aller et Joseph va obéir. Il va partir. Il va se rendre jusque vers ses frères. Et c'est pas sans difficulté qu'il va trouver ses frères. Parce qu'au départ, il errait dans la région et il ne savait pas comment trouver ses frères. Dieu va intervenir. Mais l'accueil qu'il va recevoir lorsqu'il va arriver auprès de ses frères, c'est pas quelque chose de très positif. C'est pas ce qu'il attendait, lui. Alors, il le voit arriver de loin avec sa tunique de toutes sortes de couleurs, en train de se pavaner. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils veulent le tuer. Terrible, hein ? Ils veulent tuer Joseph. Pouvez-vous vous imaginer un instant ? Peut-être que certains le peuvent, parce que vous avez vécu dans un contexte familial très difficile. Mais imaginez un instant des sœurs qui vous détestent au point qu'ils souhaitent votre mort. Alors parfois, il y a des disputes dans la famille. Mais là, écoutez, au point qu'ils veulent votre mort. Pouvez-vous vous imaginer qu'ils complotent contre vous pour vous faire disparaître complètement de leur vie? Il y a parfois dans les familles des disputes telles que on se dit « je veux plus jamais te voir ». Et tu le rayes de ta vie et tu lui parles plus jamais. Ça arrive, ça. Eh bien, c'est ça ici, à la puissance 100. Pouvez-vous vous imaginer, à 17 ans, vous retrouver de force dans un pays étranger, complètement inconnu, vous ne connaissez pas la langue, vous connaissez pas les personnes, vous connaissez pas les coutumes. Vous êtes brutalement séparé de votre famille, séparé de tout ce que vous avez connu et que vous connaissez. Imaginez le choc. Imaginez le traumatisme. Quelle angoisse! Quelle détresse! C'est ça qui se passe ici, dans Genèse chapitre 37. Terrible. Savez-vous que tout au long du chapitre 37 de la Genèse, le nom de Dieu n'est jamais mentionné? Vous remarquez cela? Le nom de Dieu n'est pas écrit une seule fois. C'est étonnant, non? On parle ici du peuple élu, des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le nom de Dieu pas mentionné. Et on peut se poser la question, mais où était Dieu pendant tout ce temps-là? Où était Dieu quand les frères de Joseph ont jeté Joseph dans la citerne? Où était Dieu quand ils l'ont vendu aux Madianites? Où était Dieu? Est-ce que Dieu est absent quand on traverse des moments de grande souffrance? Est-ce qu'il est absent? En fait, même si son nom n'est pas mentionné dans le texte, la main invisible de Dieu est partout, partout dans notre passage. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Au début, Joseph reçoit des rêves. Qui révèle à Joseph son plan? C'est Dieu. C'est Dieu qui révèle son plan à Joseph au moyen de deux rêves. Ça vient de Dieu. C'est la main de Dieu qui dirige Jacob pour qu'il envoie son fils à Sichem. Ça n'avait aucune logique. Normalement, un papa intelligent n'aurait jamais envoyé ses fils à Sichem. Mais c'est Dieu qui était derrière cela, pour que Jacob envoie ses fils à Sichem. C'est par la providence de Dieu que Joseph rencontre un inconnu à Sichem. Quelle coïncidence! L'homme s'est trouvé là et Joseph ne savait plus où aller. C'est Dieu qui a mis cet homme-là, cet inconnu. Et cet homme, en plus, il avait entendu les frères de Joseph dire qu'ils allaient à Dothan. Comment est-ce que Joseph aurait pu trouver ses frères si cet homme-là n'avait pas été là et n'avait pas entendu les 10 autres dire « on va à Dothan » Dieu dirige Ruben, l'aîné de la famille, sans qu'il le sache, pour qu'il amène ses frères à changer leur plan. C'était quoi le plan des frères au début? C'était de tuer. C'était de tuer Joseph. Et Ruben vient tout à coup et il dit « ben non, on va pas le tuer ». Voyez-vous, dans le plan de Dieu, il fallait pas que Joseph meure. Et Dieu s'est servi de Ruben pour cela. C'est encore Dieu qui permet que Ruben soit absent quand Joseph est vendu. Si Joseph avait été là, est-ce que Joseph aurait été vendu? Non. Le but de Ruben, c'était de ramener Joseph à son père. Oui, Dieu a permis que Ruben ne soit pas là pour que Joseph soit vendu. Parce que Dieu avait un plan. C'est Dieu qui a conduit Judas à vendre Joseph à des marchands qui allaient justement en Égypte. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il fallait que Joseph aille en Égypte. C'est le Seigneur qui a permis que Joseph atterrisse chez Potiphar, un fonctionnaire qui était dans l'entourage de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Joseph soit près du Pharaon pour pouvoir exercer son rôle de premier ministre de Pharaon quand la famine est arrivée. Le plan de Dieu, la main invisible de Dieu qui est partout, même si son nom n'est pas écrit dans le passage. C'est extraordinaire. En fait, Genèse 37 nous fait voir, comme aucun autre texte de l'Ancien Testament, la souveraineté de Dieu sur toute chose. Mes amis, le Dieu de la Bible est un Dieu souverain. Le Dieu de la Bible, votre Dieu, c'est un Dieu aussi qui est souverain dans votre vie. Un Dieu qui est aux commandes, peu importe les circonstances, peu importe les apparences. Vous êtes en train de vivre quelque chose, des circonstances incroyables et difficiles. Dieu est souverain. Les apparences vous disent que Dieu n'est pas là, mais il est là. Il est souverain. Tout au long de la vie de Joseph, le plan de Dieu va s'accomplir merveilleusement. C'est magnifique. Je vous invite à relire ce texte-là pendant la semaine. Vous allez voir tellement de détails. Dieu est souverain. Alors, quelle importance a l'histoire de Joseph par rapport au plan de Dieu, justement ? L'histoire d'un jeune homme de 17 ans. Est-ce que c'est important dans le plan de Dieu ? Ben, je dirais que cette histoire, elle est centrale pour que le projet de Dieu se réalise. Et moi, je suis pas étonné que dans le livre de la Genèse, on ait pris 25% de toute la Genèse pour expliquer cette histoire-là. Elle est tellement importante. Si Joseph n'était pas allé en Égypte, que serait-il advenu du peuple d'Israël ? Le peuple d'Israël serait mort parce qu'il y a eu une famine au pays de Canaan et on manquait de nourriture et le peuple serait mort. Si le peuple d'Israël avait disparu, Jésus ne serait pas né. Et si Jésus n'était pas né, le salut du monde n'aurait pas eu lieu. Voyez-vous, le plan de Dieu, il fallait que Joseph aille en Égypte, dans l'entourage du Pharaon, même s'il a beaucoup souffert, même s'il y a eu beaucoup de choses méchantes qui se sont faites, le plan de Dieu était en train de se déployer. Alors, il y a beaucoup de prédicateurs qui prennent l'histoire de Joseph pour encourager les croyants à rêver grand. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de message. Regardez les rêves de Joseph. Mes amis, tu dois rêver grand. Tu dois avoir de l'ambition. Tu dois poursuivre tes rêves. Peut-être. C'est pas mauvais d'avoir de l'ambition pour Dieu. Mais j'aimerais vous faire remarquer que les rêves de Joseph, ce sont pas ses rêves à lui. Vous avez remarqué ça? Ce sont pas ses rêves, ce sont les rêves de Dieu. Joseph n'aurait jamais, jamais, jamais pu s'imaginer devenir un jour chef en Égypte. Il n'aurait jamais pensé régner sur son père et même sur sa mère. C'est Dieu qui lui a donné ses rêves, pas pour son épanouissement personnel, mais pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Parfois, on parle de rêves, accomplis tes rêves, mais c'est pourquoi ? C'est pour moi, c'est pour mon épanouissement personnel. Et c'est un peu égoïste et égocentrique, mais ici, c'est pas ça qu'on voit. Si vous aviez demandé à Joseph, bon, imaginez-vous, vous vivez à l'époque de Joseph, et vous demandez un micro-trottoir, Joseph, quels sont tes rêves dans la vie ? Imaginez la scène. Quels sont tes rêves dans la vie ? C'est très très peu probable que Joseph ait répondu « Ah, moi je rêve d'être haï de mes frères. Ah, puis oh, je rêve aussi d'être menacé de mort par eux. Ah, puis je rêve de me retrouver loin de mon père, de ma famille, de mon pays. Je rêve d'aller dans un pays dont je connais pas la langue ni les coutumes. Ah oui, mon rêve, c'est de ne plus revoir mes proches pendant 22 ans. 22 ans. Il a revu ses frères à l'âge de 39 ans. Il a été vendu à l'âge de 17 ans. 22 ans sans revoir sa famille. Terrible. Jamais il n'aurait choisi ce genre de vie de lui-même si on lui avait demandé « Quels sont tes rêves ?» Non. Les rêves de Dieu se sont accomplis dans la vie de Joseph, pas pour son bénéfice personnel, pas pour ses ambitions à lui, mais pour le bénéfice d'un grand nombre de personnes. Parce que Dieu voulait sauver. Les rêves de Dieu n'ont pas changé aujourd'hui, mes amis. Dieu veut sauver pour lui-même un peuple nombreux encore aujourd'hui, à Saint-Maur, en France, partout. Dieu veut que celui qu'il a choisi pour régner, règne. Dieu avait choisi Joseph pour régner sur son peuple. Et Dieu veut que celui qu'il a choisi pour régner, règne encore aujourd'hui. Dieu veut délivrer de la mort ceux qui s'opposent à lui. Vous imaginez, Les frères de Joseph s'opposaient, étaient méchants envers Joseph, et Joseph était appelé à sauver ses frères. C'était pour eux qu'il est parti en Égypte. C'était pour leur salut à eux. Les rêves de Dieu s'accomplissent toujours malgré la haine, malgré la jalousie, malgré la violence, malgré la souffrance, malgré le favoritisme. Les rêves de Dieu s'accomplissent toujours. Vous regardez votre vie, vous vous dites, mais comment est-ce que Dieu peut manifester ses rêves dans ma vie ? Mais soyez sans crainte, si vous lui appartenez, et même ceux qui ne lui appartiennent pas, Dieu les utilise pour accomplir son plan. Ah, peut-être que cet après-midi, vous entendez tout cela et vous vous dites, oui, moi je me reconnais un petit peu dans la famille de Jacob. Des disputes, ouais, il y en a dans ma famille, il y en a eu. Peut-être vous dites, des jalousies, ouais, malheureusement, il y en a eu. Du favoritisme, ouais, il y en a eu. Peut-être que vous avez connu un père injuste, une mère absente. On peut imaginer toutes sortes de situations. Il n'y a pas de famille parfaite sur la terre. Peut-être que vous êtes reconnu dans l'attitude des frères. Peut-être que par moments, vous avez eu un cœur rempli de rage, peut-être de l'amertume, peut-être de la haine. Peut-être que vous avez été à un point où vous avez plus été capable de parler aimablement à tel ou tel frère, telle ou telle sœur, ou peut-être à vos parents, à votre oncle, à votre tante, à votre grand-père, grand-mère. Vous savez, ces choses-là, ça arrive sur la terre. Peut-être qu'en écoutant le message maintenant, vous vous rendez compte, en comprenant le plan de Dieu, vous vous rendez compte que vous aussi, vous êtes en train de résister au plan de Dieu, comme les frères de Joseph résistaient au plan de Dieu. Peut-être que vous vous rendez compte que Jésus, c'est le roi que Dieu a choisi pour qu'il règne, mais que jusqu'à présent, vous avez refusé qu'il règne sur votre vie. Vous l'avez combattu, vous l'avez rejeté. Refusé comme roi. L'histoire de Joseph nous rappelle d'une manière saisissante que le plan de Dieu a comme objectif le salut d'un grand nombre. Le salut d'un grand nombre. Dieu veut sauver. Mais la question qu'il faut se poser, pressante, c'est celle-ci. Toi, veux-tu être sauvé ? Dieu veut sauver, mais toi, est-ce que tu veux que Jésus règne sur ta vie ? Veux-tu l'avoir comme roi ? Je termine avec une histoire qui nous vient des États-Unis. L'histoire se passe à Terlingua, au Texas. C'est l'histoire de la petite Meredith. Elle a 2 ans et demi. Elle joue dans le jardin chez elle. Elle est sur sa balançoire. Sa mère l'a laissée juste quelques secondes, toute seule. Et là, ses pieds s'agitent au-dessus d'un petit trou dans le sol, un trou à peu près de la grosseur d'un trou de taupe. Et tout à coup, elle décide de sauter de la balançoire. Elle atterrit sur le petit trou de taupe, et là, le sol se dérobe sous ses pieds. Et elle se rend compte, en fait, que sous le petit trou de taupe, il y avait un gouffre de plus de 9 mètres de profondeur, une ancienne mine. Sa mère, quand elle revient, elle est bouleversée, évidemment. Elle se rend compte de ce qui vient de se passer. Et là, vite, elle appelle les pompiers, elle appelle les ambulances. Les pompiers, les ambulances arrivent rapidement. Et on demande à l'un des pompiers, qui est assez petit, mais trapu, assez fort, on lui demande de descendre le long des parois de l'ancienne mine. Et après quelques minutes, John O'Connor arrive au niveau où Meredith se retrouve. Il s'approche assez pour prendre son pouls et il se rend compte qu'elle est encore en vie. Merci Seigneur. Mais quand O'Connor bouge, la petite fille glisse encore plus bas. Ah, terrible. O'Connor doit remonter à la surface pour prendre l'équipement qu'il lui faut pour secourir la petite. Mais avant de redescendre, un médecin lui dit d'aller vite. Parce qu'une fois dans cette profondeur de la mine, l'air devient rare. Et le médecin lui dit, faut vous dépêcher, monsieur. Alors O'Connor redescend et il entend une voix lui répéter d'en haut, Tu devras te faire mal pour la sauver. Tu devras te faire mal pour la sauver. La petite fille était coincée entre une vieille structure de l'ancienne mine et la paroi, et on lui répète, tu devras te faire mal pour la sauver. Mais O'Connor, il est prêt à tout pour sauver la petite Meredith. Alors en se faufilant, il accroche la paroi, il y a une pierre qui l'a atteint sur la tête. Son visage était appuyé contre une paroi, et il fallait tirer malgré la douleur. Et quand O'Connor a finalement pu remonter la petite fille du fond de la mine, il avait la peau des doigts déchirée. Il avait le visage ensanglanté, le dos lacéré. On a dû lui faire des points sur la tête. On a dû lui faire une chirurgie au visage. On a dû lui faire une greffe de la peau sur son dos. Mais si son sauveteur n'avait pas accepté d'être blessé, Meredith serait morte. Elle serait morte. Cet après-midi, on a considéré les souffrances de Joseph. On a vu jusqu'où il est descendu pour que son peuple soit sauvé. Jeté dans une citerne, rejeté par ses frères, vendu comme esclave. Il y a une différence entre Joseph et Jésus. Joseph ne savait pas tout ce qu'il vivait à les servir à sauver ses frères et il ne savait pas tout ce qu'il allait devoir souffrir. Mais Jésus, lui, il savait. Jésus a accepté volontairement, en sachant très bien ce qui allait lui arriver, il a accepté de venir sauver un peuple éternellement. Jésus savait son abaissement, ses souffrances. Il savait que c'était pour notre salut. Il a accepté d'avoir mal pour nous sauver. Il a été blessé pour nous guérir. Je vais lire, en terminant, quelques passage dans Ésaïe, au chapitre 53, qui nous rappelle les souffrances de Jésus. À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel ? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe 53. Et la question qui se pose pour nous cet après-midi, lui qui a souffert pour nous sauver, pour nous prendre là où on était le plus profond, comme la petite Meredith, et nous ramener vers Dieu. La question est celle-ci. Est-ce qu'il règne sur vous ? Règne-t-il aujourd'hui sur vous ? Dieu veut que celui qu'il a choisi pour régner règne sur nos vies. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton œuvre. Nous te remercions pour l'histoire de Joseph qui nous fait comprendre à un certain niveau, la profondeur de ton amour. Seigneur, combien la réalité est plus grande que la typologie de l'Ancien Testament. Combien, Seigneur, la Nouvelle Alliance est la réalité, tandis que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Et Seigneur, nous voyons dans l'œuvre de Jésus-Christ un amour incomparable. Un Dieu qui veut sauver, un Dieu qui a suscité un roi puissant et aimant et prêt à se sacrifier. Merci Seigneur parce que tout au long de ton histoire et de l'histoire de Dieu avec les hommes, tu n'as jamais voulu qu'une chose, Seigneur, sauver. Tu as voulu, Seigneur, nous sortir des profondeurs de notre détresse pour nous donner le pardon des péchés. Seigneur, maintenant nous demandons que tu règnes sur nous. Nous voulons être un peuple, Seigneur, où celui qui a souffert est le roi, et celui qui est digne de recevoir toute notre adoration. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.